bonsoir à tous. Jusqu'à 22h, on va célébrer le 300e anniversaire de Leonhard Euler.
Sonar.
Sonar. Euler, le magnifique, une émission tout entière dédiée aux mathématiques.
X égale...
Comme en musique, on ne peut pas imaginer la musique d'aujourd'hui sans Bach. On ne peut pas imaginer les mathématiques d'aujourd'hui sans Euler.
A very interesting theory of harmony was developed by the inventor of calculus, Leonhard Euler, around 1730, time of Bach,
et à la puissance X égale cosinus de X. Plus I fois le sinus de
bon, à l'époque, tous les mathématiciens s'appelaient géomètres. Et donc, Euler était appelé aussi le grand géomètre. Mais pour moi, Euler est vraiment le suprême analyste. Ce qu'on entend par analyse aujourd'hui, et qui est plutôt basé sur l'algèbre et des calculs.
Oui, Leonhard Euler a 300 ans et beaucoup de manifestations, de colloques, de parutions saluent cet anniversaire. Bâle, sa ville natale, l'a déjà dignement célébré. On a dit de lui qu'il était le prince des mathématiques, un incomparable géomètre. Ça, c'est une citation que reprend le titre du catalogue de l'exposition qui se tient actuellement au Musée d'histoire des sciences de Genève. Bref, Leonhard Euler mérite d'être fêté. On va le faire ce soir en compagnie de mathématiciens Gerhard Wanner et Pierre-Alain Chérix de l'Université de Genève, Srishti Chatterjee qui fut professeur à l'EPFL et qui a édité les lettres à une princesse d'Allemagne de Leonhard Euler, Pierre Cartier de l'Université de Paris-Jussieu, et puis avec un historien des sciences qui nous permettra de remettre l'œuvre d'Euler dans son contexte. Cet historien, c'est Siegfried Bodenmann qui travaille sur la correspondance d'Euler. Les lectures vous sont offertes par Yves Yeni et la réalisation de cette émission a bénéficié de la précieuse collaboration de Didier Rossa. Tout de suite, un aperçu de la vie de Leonhard Euler.
Euler est entièrement 18e siècle. Il est né en 1707 à Bâle et il est mort en 1783 à Saint-Pétersbourg.
Leonhard Euler, directeur de la classe de mathématiques dans l'Académie de Pétersbourg et auparavant dans celle de Berlin, de la Société royale de Londres, des académies de Turin, de Lisbonne et de Bâle, associé étranger de celle des sciences, naquit à Bâle le 15 avril 1707 de Paul Euler et de Marguerite Brucker. Son père, devenu en 1708 pasteur du village de Riechen près de Bâle, fut son premier instituteur et eut bientôt le plaisir de voir ses espérances des talents et de la gloire d'un fils si douce pour un cœur paternel naître et se fortifier sous ses yeux et par ses soins.
La famille de Euler, au départ, était originaire d'une petite ville, la ville de Lindau, près du lac de Constance. Et en fait, c'était des faiseurs de peigne. Donc là, pas de mathématiciens, pas d'universitaires. Et c'est que bien plus tard qu'ils viennent s'établir à Bâle. Et là encore, jusqu'au père de Euler, aucun n'a fait des études universitaires. Et le père de Euler, Paulus ou Paul Euler, est le premier à faire des études. Il va faire des études de théologie, mais il va s'intéresser aux mathématiques et prendre des cours chez Jacob Bernoulli, qui était avec son frère Johann, les Nestors, enfin les grands maîtres de mathématiques depuis la mort de Newton en Europe du XVIIIe siècle. Une fois ses études terminées, Paul va trouver un poste de pasteur, d'abord à l'orphelinat à Bâle, et puis ensuite à Riehen, une petite bourgade donc près de Bâle. Il va toute sa vie donc être pasteur là-bas, notamment avoir des problèmes avec les piétistes, et réformer un peu toute cette église, mais il va plus vraiment s'intéresser aux mathématiques.
Paul Euler, pénétré des principes de son maître, enseigna les éléments des mathématiques à son fils, quoiqu'il le destinât à l'étude de la théologie. Et lorsque le jeune Euler fut envoyé à l'université de Bâle, il se trouva digne de recevoir les leçons de Jean Bernoulli. Son application, ses dispositions heureuses lui méritèrent bientôt l'amitié de Daniel et de Nicolas Bernoulli, disciples et déjà rivaux de leur père. Il ne jouit pas longtemps de cet avantage, et à peine eut-il obtenu le titre de maître S.A.R. que son père, qui le destinait à lui succéder, l'obligea de quitter les mathématiques pour la théologie. Heureusement, cette rigueur ne fut que passagère. On lui fit aisément entendre que son fils était né pour remplacer dans l'Europe Jean Bernoulli et non pour être pasteur de Richenau.
Toute l'enfance de Euler va être baignée quand même de mathématiques, puisque Paul va découvrir l'intérêt de son fils pour les mathématiques et lui faire lire un traité de mathématiques qui s'appelle le Cos. Donc Cos, c'est causa, c'est l'inconnu en fait, et c'est un traité absolument difficile et incompréhensible pour un enfant de cet âge normalement. Et donc avec son père, il va lire ce traité-là et va développer évidemment un intérêt pour ce qu'il a découvert là-dedans.
Plus l'infini.
Bon, il part à l'âge de 8 ans au gymnase. Le gymnase se trouve à Bâle, donc Rion est quand même assez loin pour l'époque. Donc il va aller vivre chez sa grand-mère maternelle, alors la famille du côté de la mère. On a tendance à l'oublier. En fait, la mère, contrairement au père de Euler, elle vient d'un milieu beaucoup plus universitaire, humaniste en fait. Notamment, on a les Theodor Zwinger, donc le médecin et le théologien. On a aussi des hébraïsants, des latinistes. Et donc, on a toute une famille ici qui a déjà un rapport avec les études. Et il est très certain que Euler en a profité. Et au moment donc, où il part au gymnase à 8 ans, il est chez sa grand-mère maternelle, qui elle aussi va l'aider dans ces études-là. Le gymnase à Bâle, à l'époque, on apprend du latin. Un peu de grec, c'est facultatif, on n'est pas obligé. Des rudiments de mathématiques, mais surtout, bon, on apprend à lire, on apprend à écrire, si on ne le sait pas encore, ou à peu perfectionner. Donc le père de Euler se rend compte que son fils ne va pas vraiment pouvoir développer l'intérêt qu'il avait développé pour les mathématiques. Il va lui accorder un professeur privé, qui est aussi un théologien, Johannes Burckhardt. Ce Johannes Burckhardt a été, lui, l'élève de Johann I Bernoulli, donc là aussi, il y a un rapport avec les deux grands maîtres des mathématiques qui sont à Bâle à ce moment-là.
Ça veut dire que le père, finalement, avait très envie que son fils devienne mathématicien, parce qu'on lit souvent qu'il voulait plutôt qu'il devienne pasteur, lui aussi.
Donc son père désirait que son fils fasse des études de théologie, parce qu'à l'époque, à Bâle, un prof de mathématiques est très très mal payé. D'ailleurs, Euler ne retournera jamais à Bâle, ne fera jamais une carrière à Bâle, c'est peut-être pas un hasard. Johann Bernoulli se plaint énormément, un salaire de misère, de ne pas vraiment être reconnu. Et donc le père de Euler voit l'intérêt pour les mathématiques de son fils, donc il ne va pas brider cet intérêt-là, au contraire, il va aider Euler à développer cet intérêt, mais il va quand même prévoir pour son fils des études de théologie qui rapportent plus et qui ont aussi un meilleur statut, c'est-à-dire que la famille Euler est une famille très croyante. Pour le bien de son fils, pour une carrière, c'était bien de faire des études de théologie. Finalement, il est devenu mathématicien et on sait qu'il a réussi dans ce domaine-là.
Monsieur Euler concourut pour une chaire dans l'université de Bâle. Mais c'est le sort qui prononce entre les savants admis à disputer ses places et il ne fut pas favorable. Nous ne disons point à monsieur Euler, mais à sa patrie, qui le perdit peu de jours après et pour toujours. 2 ans auparavant, Nicolas et Daniel Bernoulli avaient été appelés en Russie. M. Euler, qui les vit partir avec regret, obtint d'eux la promesse de chercher à lui procurer le même honneur qu'il ambitionnait de partager. Et il ne faut pas en être surpris.
Il faut bien comprendre qu'à l'époque, même si la mobilité est déjà plus grande qu'on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire que les gens voyagent pour étudier, les gens voyagent pour faire des expéditions scientifiques, les gens voyagent pour obtenir un poste de professeur dans une ville différente. Mais ça coûte cher, hein. Un tel voyage coûte cher, à certains dangers aussi. Or, Euler part pour Saint-Pétersbourg, c'est sa première étape. Saint-Pétersbourg-Bâle, à l'époque, c'est plus d'un mois de voyage.
Le voyage de M. Euler fut entrepris sous de tristes auspices. Il apprit bientôt que Nicolas Bernoulli avait déjà été victime de la rigueur du climat. Et le jour même où il entra sur les terres de l'Empire russe fut celui de la mort de Catherine Ier. Événement qui parut d'abord menacer d'une dissolution prochaine l'académie dont cette princesse, fidèle aux vues de son époux, venait d'achever la fondation. Monsieur Euler, éloigné de sa patrie, n'ayant point, comme Monsieur Daniel Bernoulli, à y rapporter un nom célèbre et respecté, prit la résolution d'entrer dans la marine russe. Un des amiraux de Pierre Ier lui avait déjà promis une place lorsque, heureusement pour la géométrie, l'orage élevé contre les sciences se dissipa. M. Euler obtint le titre de professeur, succéda en 1733 à M. Daniel Bernoulli lorsque cet homme illustre se retira dans son pays. Et la même année, il épousa Mademoiselle Xell, sa compatriote, fille d'un peintre que Pierre Ier avait ramené en Russie au retour de son premier voyage.
Maintenant, il a gardé un contact avec sa famille. Malheureusement, nous ne possédons pas de lettres avec son père ou sa mère. Mais il était au courant de ce qui se passait à Bâle, notamment dans sa famille, puisque quand son père meurt, il va faire venir sa mère à Berlin, où il se trouve à l'époque. Il ne va pas pouvoir aller la chercher à Bâle, mais il va aller à Francfort. Sa mère fera le voyage de Bâle à Francfort, ils se rencontreront à Francfort. Et ensuite, sa mère passera toute la fin de sa vie auprès de son fils à Berlin. Euler achètera même une maison pour pouvoir loger sa mère et sa famille. Et je crois en 1752, Euler va faire la demande de la citoyenneté pour sa femme et ses enfants, de la citoyenneté bâloise. Donc il va garder aussi un rapport avec la Suisse. Après la révolution d'octobre, les descendants de la famille d'Euler, qui avaient toujours été très proches des tsars, vont se retrouver dans une situation assez difficile. Et certains vont faire la demande de revenir en Suisse. Et ça va être assez facilement accordé parce qu'il y a ce précédent. Donc Léonard Euler, patriarche de la famille, qui a fait la demande de la citoyenneté bâloise en 1752. Et donc qui va permettre à ses descendants de revenir, enfin certains d'eux, de revenir en Suisse. Et aujourd'hui, il existe même un Léonard Euler, qui est à peu près mon âge, donc qui est ici à Morges, je crois.
C'est lourd à porter pour lui ?
Je crois pas, parce que dans la famille, il n'y a aucun mathématicien. Déjà, parmi les enfants de Euler, donc à part son fils aîné, Johann Albrecht, qui, avec son père, a écrit quelques articles et qui a gagné un prix de l'Académie de Paris. Donc lui, il a un peu baigné là-dedans, mais c'est vraiment le seul. Les autres, donc médecin, carrière militaire, et ensuite, donc aujourd'hui, il n'y a vraiment plus personne.
Né chez une nation où tous les gouvernements conservent au moins l'apparence et le langage des constitutions républicaines, où malgré des distinctions réelles, on a soigneusement gardé toutes les formes de l'égalité, où le respect qu'on doit aux lois s'étend jusqu'aux usages les plus indifférents, pourvu que l'Antiquité ou l'opinion vulgaire les ait consacrés, M. Euler se trouvait transporté dans un pays où le prince exerce une autorité sans bornes, où la loi la plus sacrée des gouvernements absolus, celle qui règle la succession à l'Empire, était alors incertaine et méprisée. Où des chefs, esclaves du souverain, régnaient despotiquement sur un peuple esclave. Et c'était dans le moment où cet empire, gouverné par un étranger ambitieux, défiant et cruel, gémissait sous la tyrannie et offrait un spectacle aussi effrayant qu'instructif aux savants qui étaient venus chercher dans son sein la gloire, la fortune et la liberté de goûter en paix les douceurs de l'étude.
Eh bien voilà le cadre posé, Léonard Euler, 1707-1783, né à Bâle mais très tôt exilé, Académie de Saint-Pétersbourg, puis Académie de Berlin sous Frédéric II et retour à Saint-Pétersbourg, ville dans laquelle Léonard Euler a fini ses jours.
Sonar.
Euler le Magnifique, petit retour aux origines pour comprendre d'où vient ce génie qu'on célèbre aujourd'hui, Siegfried Bodenmann.
Il était rentré assez jeune à l'université de Bâle, il avait 13 ans. Pour nous, ça semble incroyable, ça va consolider cette image du génie. Alors qu'en fait, pour Bâle, 13 ans, c'est l'âge minimum d'entrée à l'université. 14 ans, c'est plutôt la moyenne en général. Bon, l'université n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, à l'université, on apprend un savoir établi. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas vraiment des choses nouvelles, on apprend ce que nous a laissé la tradition. Les auteurs de l'Antiquité, par exemple, et les auteurs du XVIIe, pour le XVIIIe. Et donc c'est pas vraiment là que Euler se forme, c'est grâce à Johann Bernoulli. Johann Bernoulli qui donnait des cours privés, comme la majorité des professeurs de l'époque, pour arrondir la fin de mois. Et bon, Euler n'a pas les moyens de se payer ses cours privés. Johann Bernoulli va se rendre compte du potentiel de ce jeune homme. Il va lui permettre de découvrir sa bibliothèque, de lire ses livres et de discuter avec lui dans les discussions du samedi. Et c'est les fils de Johann Bernoulli qui vont aider Euler dans sa carrière et à partir en fait de Bâle.
On peut juste peut-être récapituler. Donc il y a le père qui s'appelle Johann, ensuite il y a les fils, les amis de Euler, c'est lesquels ceux-là?
Donc alors les amis, c'est surtout Daniel Bernoulli, à Bâle encore, donc avant 1727. Il se lie d'amitié aussi avec les deux autres fils, Johann II Bernoulli, donc le fils de Johann I, le père, puis Nicolas Bernoulli. Malheureusement, donc Nicolas Bernoulli va mourir assez jeune en fait, et donc Johann II Bernoulli, lui, va rester en fait plutôt à Bâle, ce qui fait que ce sera surtout avec Daniel Bernoulli que Euler va garder toute sa vie de très très bons contacts, une correspondance aussi assez conséquente.
Ils sont tous mathématiciens?
Pas tous. Alors, Johann II, par exemple, déçoit son père à ce niveau-là. Enfin bon, Johann I est déçu par tous ses fils, en fait. C'est le type même du père qui ne peut être que déçu par ses fils, donc il attend d'eux des miracles. Alors que Daniel Bernoulli a vraiment, pas seulement en mathématiques, mais aussi en mécanique, en hydrodynamique, a vraiment apporté quelque chose à la science. Mais ce n'était pas assez pour le père. Et ce qui est bizarre, c'est que donc ce père qui avait de la peine à faire des compliments, mais aussi à ses autres élèves, va par contre auréoler l'air d'une certaine gloire. Dans ses lettres, il commence par « mon cher élève », etc. Et on arrive, il y a vraiment une... C'est exponentiel, et à un moment, et il parle de prince des mathématiques.
F de x égale x sur 2. A pour primitive, g de x.
Tous les mathématiciens célèbres qui existent aujourd'hui sont ses élèves. Il n'en est aucun qui ne se soit formé par la lecture de ses ouvrages, qui n'ait reçu de lui les formules, la méthode qu'il emploie, qui, dans ses découvertes, ne soit guidé et soutenu par le génie d'Euler. Il doit cet honneur à la révolution qu'il a produite dans les sciences mathématiques en les soumettant toutes à l'analyse, à sa force pour le travail, qui lui a permis d'embrasser toute l'étendue de ses sciences, à l'ordre qu'il a su mettre dans ses grands ouvrages, à la simplicité, à l'élégance de ses formules, à la clarté de ses méthodes et de ses démonstrations, qu'augmente encore la multiplicité et le choix de ses exemples. Ni Newton, ni Descartes même, dont l'influence a été si puissante, n'ont obtenu cette gloire. Et jusqu'ici, seul entre les géomètres, M. Euler l'a possédée tout entière et sans partage. Marquis de Condorcet.
Alors on l'a bien compris, maintenant Euler est le plus grand, on le disait déjà à son époque, vous avez entendu le témoignage de Condorcet, Euler est le meilleur, mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Là ce sont les mathématiciens qui apportent la réponse, d'abord Gerhard Wanner, puis Pierre-Alain Chérix.
Oui, il est le premier mathématicien qui n'est pas considéré ses collègues ou les autres mathématiciens comme adversaires ou comme rivaux, mais comme ami, comme copain, et les difficultés mathématiques étaient le vrai ennemi à vaincre. Alors, avant, les gens comme Fermat, Descartes, Leibniz ou Newton, ils essayaient toujours de cacher leurs idées et de publier que le résultat, être très très fiers, et ils préféraient, comme disait Cramer, ils préféraient le plaisir de se faire admirer au plaisir d'enseigner.
Mais c'était courant ou c'est encore courant chez les mathématiciens? Il y en a beaucoup qui ont envie de rester un peu dans le mystère.
C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a des gens qui aiment avoir un savoir et en tirer du pouvoir. Même après Euler, on voit que certaines personnes, et là je pense à Gauss, qui lui avait clairement l'idée d'amener seulement le résultat, puisqu'il disait, quand on lui demandait pourquoi est-ce qu'il n'expliquait pas comment il arrivait à certains résultats, il avait la belle phrase suivante: quand on construit une cathédrale, à la fin, on enlève l'échafaudage. Alors effectivement, Euler nous laisse l'échafaudage, alors ça c'est bien pratique.
Alors oui, Euler, c'est un échafaudage assez frappant quand on lit ses textes, même pour des non-spécialistes comme moi, c'est qu'on voit qu'il y a une espèce de progression, un souci d'aller pas à pas, de vraiment bien circonscrire le problème. Il y a un style Euler, donc, Gerhard Wanner.
Oui, c'est ça. C'est la volonté de se faire comprendre et la volonté d'instruire, la volonté de commencer un article très, très clairement avec des petits problèmes, avec beaucoup d'exemples et des preuves à la fin. Et c'est comme ça qu'il est devenu le maître de tous les mathématiciens après lui. Si on ouvre un livre de collège aujourd'hui, 50% sont tous des travaux d'Euler. Et il est devenu comme ça le Bach de la musique. Alors, comme en musique, on ne peut pas imaginer la musique d'aujourd'hui sans Bach. On ne peut pas imaginer les mathématiques d'aujourd'hui sans Euler.
Il y a même des notions ou des formules qui ont gardé son nom, qu'on utilise encore avec son nom, ou bien ?
Il y a énormément, mais je ne sais pas si c'est le moyen de le dire ici.
Non, je ne me demande pas de nous les expliquer, mais simplement, bon, par exemple, on parle de constante d'Euler, ça c'est toujours en vigueur.
Oui, oui. Le plus en vigueur actuellement encore sont ses recherches en physique. Celui qui a développé toute la mécanique comme problème d'équation différentielle, qui permet de résoudre tous les problèmes de mécanique, mécanique des liquides, mécanique d'hydrodynamique, aérodynamique, par moyen d'ordinateur. Tout le mouvement des liquides, le mouvement de l'air autour d'un avion, tout ça, c'est grâce aux idées d'Euler transformées en équation différentielle, à d'autres idées d'Euler résolubles par ordinateur. Et c'est comme ça, aujourd'hui, il n'y aurait pas de prévision météo, il n'y aurait pas de prévision d'un vol d'un avion sans ces idées.
Mais en même temps, le calcul différentiel, c'était une chose très, très en vogue à l'époque. Enfin, c'est né, fin 17e, et il y a beaucoup de gens qui s'en sont occupés. Quelle est la supériorité d'Euler ?
Celui qui l'a perfectionné est celui qui a ouvert énormément de possibilités pour l'appliquer. Pour les applications en physique, pour les applications en chimie, en biologie, parce qu'il faut, beaucoup de connaissances dans l'analyse pour pouvoir l'appliquer. Okay.
Jamais géomètre n'a tant écrit, et jamais aucun n'a donné à ses ouvrages un tel degré de perfection. Lorsqu'il publiait un mémoire sur un objet nouveau, il exposait avec simplicité la route qu'il avait parcourue. Il en faisait observer les difficultés ou les détours. Et après avoir fait suivre scrupuleusement à ses lecteurs la marche de son esprit dans ses premiers essais, il leur montrait ensuite comment il était parvenu à trouver une route plus simple. On voit qu'il préférait l'instruction de ses disciples à la petite satisfaction de les étonner, et qu'il croyait n'en pas faire assez pour la science s'il n'ajoutait aux vérités nouvelles dont il l'enrichissait l'exposition naïve des idées qu'il y avait conduites. Marquis de Condorcet.
Pierre Lachérix, est-ce que ça veut dire que Euler, à votre sens, a essayé de tout mathématiser ? Parce que quand on regarde un peu ces articles plus légers, disons que les grands articles mathématiques, ça va des ballons, les montgolfières, à toutes sortes de sujets, c'est une conviction de cette époque qu'on peut arriver à tout mettre en formule ?
Je ne suis pas dans la peau de l'air, donc je ne peux pas savoir s'il voulait vraiment tout mathématiser. Mais chaque fois qu'il le pouvait, il le faisait. Et c'est vrai que c'était un homme qui avait une capacité de calcul phénoménale. C'était une personne qui avait une capacité de travail, une mémoire géniale. Et donc, à ce niveau-là, il avait des outils pour attaquer des problèmes que nous n'avons pas. Et donc, en ce sens-là, même des problèmes qui semblaient être des problèmes peut-être plus léger ou plus facile, il les attaquait, il mettait en œuvre des méthodes intellectuelles que nous n'aurions pas pu faire. Et donc dans ce sens-là, oui, il a utilisé les mathématiques dans beaucoup de domaines où d'autres ne les auraient pas utilisées.
Et on parlait du style d'Euler, Gerhard Wanner, mais il y a aussi la notation. Est-ce que cette notation était un peu nouvelle pour l'époque ? Est-ce qu'elle est encore valable aujourd'hui ? Les symboles, enfin tout ce langage mathématique qu'il utilise.
Ça, c'était une de ses plus importantes contributions. C'est lui qui est le fondateur de pratiquement toutes les notations mathématiques. Les symboles pour sinus, pour cosinus, les symboles pour les fonctions, et aussi les symboles pour le calcul différentiel et intégral. Ils sont dus à Leibniz, mais c'est Euler qui les a popularisés et utilisés dans ses œuvres tout le temps. Et comme ça, ils sont devenus aussi dans toutes les mathématiques. Les coordonnées cartésiennes, ils n'ont pas chez Descartes. ils sont chez Euler, vont la première fois expliquer.
F de Z égale à la puissance de B, X égale à la sinus de X plus Z puissance sinus de N allant de 0 à plus l'infini.
Gerhard Wanner nous a parlé de l'apport de Leonhard Euler au calcul différentiel et intégral. Il a écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages sur le sujet, dont ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre, l'Introductio Analysi in Infinitorum. Comme vous l'aurez compris, même en latin, dans le calcul différentiel, il y a la notion d'infini. Cette notion d'infini qui n'était pas encore complètement admise au XVIIIe siècle et qui posait des problèmes, disons, métaphysiques. Euler n'y a pas échappé, mais il s'en est bien tiré avec finalement une astuce de vocabulaire. L'infiniment petit, l'infiniment grand se transforme en autre chose. C'est ce que nous dit Gerhard Wanner.
Alors, soit on dit infiniment petit, mais ça donne d'énormes controverses de l'époque. Et on dit tout simplement petit, et ça pose aucun problème. Et quand le plus petit se devient, le plus exact détermine le résultat. Alors là, évidemment, Euler n'était pas grand philosophe. Là, il était assez brutal en parlant des infiniment petits et des infiniment grands. Et il faisait beaucoup critiquer par les gens encore aujourd'hui. Mais si on remplace l'infiniment par petit et par grand, il n'y a aucune difficulté et ses idées sont parfaitement claires et parfaitement rigoureuses aussi.
A plus l'infini.
Et à la puissance pi égale cosinus de
x sur 3
pi fois l'approximation du nombre pi.
Le grand Euler s'est attaqué aux grands problèmes des mathématiques de son temps, mais il n'a pas négligé pourtant des plus petits problèmes, des curiosités, comme par exemple cette énigme des ponts de Königsberg, Pierre-Alain Chérix.
Oh, c'est un problème relativement facile à expliquer, puisque Königsberg à l'époque était construite sur la rivière Pregel, et il y avait une île au milieu de la ville, île qui était reliée au berge par sept ponts. Et la question était de savoir s'il était possible de se promener sur les sept ponts en passant une et une seule fois par chacun d'eux. Les gens essayaient, n'y arrivaient pas. Et Euler va démontrer que ce n'est pas possible. Et alors, on attribue à Euler à ce moment-là la création de la théorie des graphes. Chez Euler, en fait, le graphe avec lequel on travaille maintenant pour démontrer que ce n'est pas possible, n'apparaît pas. Mais effectivement, ces idées sont sous-jacentes.
Il n'est jamais cité pour ça, mais ça veut dire qu'il aurait quelque chose à voir aussi avec la topologie.
Alors là, je vous cite un mathématicien genevois qui s'appelle Claude Weber, qui dit que la théorie des graphes, c'est les bas-fonds de la topologie. Mais effectivement, il utilise un terme que Leibniz a introduit, qui s'appelle l'analysis situs, pour décrire que ce qui est important dans ce problème, ce n'est pas tellement la forme qu'a l'île, mais c'est plutôt la configuration, comment sont placés les ponts. Et on peut déformer la situation sans que le résultat change. En ce sens-là, c'est une approche topologique, oui.
Un vrai travail important d'Euler en topologie a été de compter à un polyèdre les arêtes, les nombres de sommets et les nombres de faces. Elle a découvert qu'il y a une relation entre ces... Il y a plusieurs inégalités qu'elle a démontrées et elle est célèbre qu'elle était que leur somme. Moi, le nombre de faces était toujours égal à 2. Alors ça, c'était un grand résultat d'Euler en topologie qui est encore fondamental de toute la topologie d'aujourd'hui.
Donc on a tort de dire qu'Euler n'a pas fait de topologie.
C'est ça.
Donc avec Euler, on a toujours tort de dire qu'il n'a pas fait quelque chose, c'est ça?
Mais il a toute sa vie appliqué ce qu'il savait mieux faire, de calculer, à tout ce qui existait autour de lui. Où il est célèbre aujourd'hui, c'est souvent des petits détails qu'il faisait un après-midi. Par exemple, justement, les ponts de Königsberg, c'était pour lui un petit jeu. Il n'est plus jamais revenu après, mais des choses que lui tenait au cœur, c'était les intégrales, le calcul différentiel. Mécanique, problème de mécanique, À ces problèmes, il venait de toujours, régulièrement toute sa vie, il répétait, recommençait toujours les recherches pour les perfectionner, pour les améliorer, pour améliorer la présentation. Et c'était ça, les choses qui lui tenaient vraiment au cœur. Par exemple, le calcul intégral, c'était probablement son intérêt le plus fort. Là, il écrit 10 volumes de ses opera omnia uniquement consacrés au calcul intégral. Plus d'un tiers de tous ses travaux mathématiques. Et à côté, il était encore physicien, il était encore astronome. Et c'est absolument incroyable ce qu'il a travaillé. Il a perfectionné toutes les mathématiques des prédécesseurs qui existaient et il a ouvert plein de nouvelles voies d'idées et de recherches et d'applications des mathématiques à tout ce qui existait autour de lui. Et alors là, le pont de Königsberg est un exemple, le polyèdre est un autre, la musique est un autre, la logique aussi, la géométrie analytique, il est pratiquement le fondateur. C'est chez Descartes, c'était que des choses vagues. C'est Euler qui les a vraiment clairement expliquées et clairement appliquées. Et voilà. Et la mécanique surtout, alors c'est là où il était le fondateur absolu. Aujourd'hui, on dit toujours en physique les équations de Newton, quand on veut résoudre un problème de mécanique. Et chez Newton, ça se trouve nulle part, les équations de Newton. Il a juste expliqué en mots les principes de la mécanique, mais des tournées en équations différentielles, c'est le travail d'Euler. Et de faire les mêmes applications en mécanique des fluides, et de faire les mêmes applications en mécanique des corps solides, c'est tout Euler qui a fait, il est là, le fondateur de toute la mécanique. L'application des mathématiques aux calculs scientifiques des mécaniques, de physique de l'époque.
L'astronomie n'employait que des méthodes géométriques. Monsieur Euler sentit tout ce qu'elle pouvait espérer des secours de l'analyse, et il le prouva par des exemples qui, imités depuis par plusieurs savants célèbres, pourront un jour faire prendre à cette science une forme nouvelle. Marquis de Condorcet.
Il me semblait qu'au temps d'Euler, je ne sais pas si c'est lui ou son époque, mais il y a vraiment un tournant par rapport à la géométrie. J'ai l'impression qu'on traduit de plus en plus en chiffres, en formules, ce qui était plus géométrique, disons, un siècle avant.
Oui, ça c'était ce qu'il savait le mieux faire. Il était calculateur absolument faramineux, et évidemment, il était une des plus féroces transformateurs de la géométrie en algèbre. Mais ça, c'est un mouvement qui est aussi... plus tard, les gens sont revenus. Des gens comme Jacob Steiner au 19e siècle, ils sont revenus de nouveau à la géométrie ancienne. Mais c'était un mouvement qui a commencé par Descartes. Et déjà, les Arabes ont transformé toute la géométrie en algèbre. Et ça a été évidemment un grand événement. Et là, Euler a été un des grands protagonistes, avec le deuxième volume de Introductio in Analysis Infinitorum. Alors, par exemple, les coordonnées cartésiennes, entre guillemets, ils sont là pour la première fois expliquées.
Parce que là, il parle notamment des courbes, c'est ça?
Des courbes sont par Euler, donc une fonction. Alors, avant, c'était des courbes, et chez Euler, à partir d'Euler, c'était, dans un système coordonné, une fonction... Y invariable qui dépend d'une autre, ce qui forme des courbes. C'était lui qui a transmis la géométrie en analyse.
L'idée de fonction est une idée qui est vraiment omniprésente dans la vie courante.
Pierre-Alain Chérix.
Puisque quand je fais un mouvement, ça a des conséquences sur mon environnement. Et des conséquences qui sont en général prévisibles. Des fois pas, mais souvent elles le sont. Et cette idée de dire je fais une action, je fais varier un paramètre, et ceci a une conséquence sur mon environnement, et dire ça, c'est la notion fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a des relations entre des paramètres qui bougent et les autres paramètres de l'environnement. Ça a permis de dire, de vraiment pointer, c'est ceci qu'il faut étudier, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc du coup, ça a permis à Euler, qui pousse vraiment... cette approche-là, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il est si moderne encore, de pouvoir mettre énormément de problèmes en équation. Et ça, si on gardait en arrière-fond l'idée qu'il fallait avoir une vision géométrique du problème, on s'interdisait d'utiliser ce type d'approche pour des tas de problèmes. Donc, le passage de l'abstraction, oublier la géométrie et dire maintenant on regarde juste des relations entre paramètres un peu abstraits, ça c'est une étape conceptuelle énorme.
Ça permet aussi de s'attaquer à des problèmes qui étaient d'ailleurs à la mode à son époque, à tous ces problèmes d'astronomie, de mouvement des planètes, les questions de force, en fait des choses qui sont dynamiques aussi, que les formules peuvent traduire des choses qui bougent.
Alors bon, le mouvement des planètes, c'est encore un mouvement bien géométrique, donc on est assez d'accord. Par contre, l'explication des forces qui induisent les mouvements des planètes, ça, effectivement, comme Gerhard Wanner l'a dit, c'est le travail de Lhère d'avoir réussi à écrire explicitement les équations de la mécanique.
Découvrir des méthodes pour les résoudre, et c'était ça les grandes victoires que l'astronomie avait fait dans le passé, de prédire le retour des comètes qui sont ensuite arrivées exactement à la seconde prédise, ou de prédire des éclipses solaires. Par exemple, on se souvient de l'éclipse de 1999, du 11 août, qui a été prédite déjà 50 ans avant, à la seconde près, et elle est arrivée exactement à la seconde près, tout juste et tout correctement. La météo était tout fausse le même jour. Mais les deux prévisions étaient basées sur les idées d'Euler, absolument.
Tous les problèmes de l'astronomie physique qui ont été traités dans ce siècle ont été résolus par des méthodes analytiques particulières à M. Euler. Son calcul des perturbations de l'orbite terrestre, surtout sa théorie de la Lune, sont des modèles de la simplicité, de la précision auxquelles on peut porter ces méthodes. Et en lisant ce dernier ouvrage, on n'est pas moins étonné de voir jusqu'où un homme d'un grand génie, animé du désir de ne rien laisser à faire sur une question importante, peut pousser la patience et l'opiniâtreté du travail. Marquis de Condorcet.
Sur les calculs en astronomie, la question est comment se développe le système solaire ? Alors, selon Kepler, les planètes tournent autour du Soleil sur des ellipses, avec le Soleil en foyer et des ellipses qui ne bougent pas, qui restent constantes. Mais Euler a développé une théorie, les planètes ne sont pas seulement attirées par le Soleil, mais aussi s'attirent entre eux. Et c'est cette petite force qui déforme les orbites des planètes pendant des siècles. Alors, toutes les planètes tournent autour du Soleil, toujours sur la même orbite, mais sous la force entre les deux planètes, les orbites se déforment lentement. Alors, par exemple, elles deviennent lentement plus larges ou plus grandes que la distance du Soleil, ou l'ellipse devient plus plate, et ça a une influence sur le climat. Alors, ce qu'on a actuellement fait, et grâce aux méthodes d'Euler, premièrement, les équations différentielles d'Euler a mis en place sur le mouvement des planètes, et deuxièmement, les méthodes numériques qui permettent à prédire le mouvement dans le futur, mais aussi dans le rétro. On peut aussi calculer en retour. Alors on peut savoir comment était le système solaire il y a 10 000 ans, il y a 10 millions d'années, ou il y a 100 millions d'années. Et on a fait des calculs numériques. On a vu que les distances des planètes augmentent légèrement, après diminuent légèrement. Et après, on a pu faire une courbe sur le climat, uniquement déterminée par les mouvements des planètes. Sur les derniers 100 millions d'années, on a obtenu une courbe des périodes froides et des périodes chaudes par des calculs exacts. Et après, on a pu comparer cette courbe aux fossiles. Et ça a permis de, premièrement, expliquer beaucoup d'effets dans la préhistoire sur les plantes et sur les animaux de l'époque. Ensuite, ça a aussi permis de synchroniser les périodes de l'histoire de la Terre avec ces calculs. C'est ça une des implications importantes et intéressantes pour des méthodes d'Euler. Et l'avenir, ce sera encore plus intéressant, comment le climat va se développer dans l'avenir.
Et puis il a fait ça aussi pour des choses beaucoup plus anecdotiques, je pense par exemple aux bateaux, des choses comme ça, le mouvement des vaisseaux, l'artillerie, enfin c'est toutes des choses aussi qui sont beaucoup moins nobles que l'astronomie, mais ça bouge aussi.
Oui, c'est ça, mais c'est les mêmes. La même idée, la même façon de faire les mathématiques.
Mémoire sur la force des rames par M. Euler. Berlin, novembre 1747. Lorsqu'on considère l'action des rames, on est d'abord porté à croire qu'elle doit suivre les lois du levier. Et c'est de ce principe qu'Aristote a déjà voulu déterminer la force des rames dont les vaisseaux sont mis en mouvement. Or, l'expérience a bientôt fait connaître que ce philosophe s'est trompé dans cette recherche. J'espère de mettre cette matière tellement dans tout son jour qu'il ne restera plus aucun doute, ni sur la vérité de la théorie même, ni sur son accord avec l'expérience. Dans cette recherche, il y a quantité de choses auxquelles il faut avoir égard si l'on veut déterminer le mouvement du vaisseau qui est causé par l'action des rames. Premièrement, on doit considérer la masse du vaisseau, la vitesse qu'il a actuellement et la résistance qu'il rencontre en sciant par l'eau avec cette vitesse. En second lieu, on doit regarder le poids et la figure de chaque rame, la quantité de la partie qui est dans le vaisseau et de l'autre qui se trouve dehors, avec la surface de la pale dont l'eau est frappée. En troisième lieu, il faut introduire dans le calcul la force que les rameurs appliquent aux rames pour en déterminer la vitesse avec laquelle les pales fendent l'eau et la résistance qu'elles y rencontrent. Et comme dans chaque palade, il n'y a qu'environ le tiers du temps que la rame agit sur l'eau, le reste du temps étant employé à lever la rame et à la retirer, il est à remarquer que ce n'est que la force que le rameur exerce pendant que la pale est sous l'eau qui est employée à pousser le vaisseau. Le nombre de ces considérations dont dépend cette recherche étant si grand, et celles qui sont connues étant mêlées avec les inconnues, on ne sera plus surpris pourquoi cette matière a été si négligée jusqu'ici, et combien il est difficile de n'y tomber point dans l'erreur.
Siegfried Bodenmann.
Autre problème, la balistique, que ce soit pour des raisons pratiques, hein, donc la guerre, par exemple, il est important de savoir comment un boulet va réagir une fois sorti du canon. Au XVIe siècle, par exemple, un boulet ne décrit pas une forme parabolique, mais va décrire une forme droite, arrive à son point le plus haut, et puis ensuite tombe de nouveau en ligne droite au sol. Avec Galilée commence déjà cet effort de mathématisation. Ce que font Euler, mais aussi Clairaut, D'Alembert, Lagrange, donc d'autres grands mathématiciens de l'époque, Lambert, ce n'est finalement que poursuivre cette œuvre de mathématisation.
Euler et d'autres s'intéressent beaucoup aux problèmes concrets. Or, on sait bien que les problèmes concrets, justement le boulet de canon, ou le bateau, ou les rameurs, ou je ne sais quoi, c'est souvent beaucoup plus compliqué sur le plan mathématique. Donc on est obligé de développer là des outils plus sophistiqués, et finalement une autre mathématique.
Bon, l'idée de Euler, c'est que la mathématique supérieure, comme il l'appelle, c'est cette mathématique qui va permettre de mathématiser la nature. Donc c'est en effet une mathématique différente, mais c'est la véritable mathématique. C'est celle qui va permettre la recherche de la vérité. C'est un sport aussi quelque part. Donc c'est de découvrir cette mathématique plus compliquée et qu'à l'époque, donc on a ce nouvel outil qui est incroyable, qui est le calcul infinitésimal et différentiel. Et donc c'est d'appliquer ce nouvel outil, de le perfectionner, de l'appliquer dans la nature, de voir qu'est-ce que l'on peut maintenant expliquer avec ça. Bon, le grave problème qu'on a encore aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une différence entre la pratique, et toujours une différence entre la pratique et les formules qui sont écrites sur le papier. D'ailleurs, lorsque Euler doit s'occuper des jets d'eau de Sans Souci, donc il doit faire une expertise pour savoir si le projet de Hollandais, je crois, qu'a fait venir Frédéric II à Berlin, à Potsdam, pour faire fonctionner les jets d'eau de Sans Souci, donc si ce projet va fonctionner. Donc il fait les calculs et il dit, bon, avec les tuyaux en bois qu'ils ont prévus, ça ne va jamais fonctionner. Tant pis, ils font quand même, ils font en bois, effectivement ça ne marche pas. Ça sera une horrible histoire, Frédéric II dira que c'était la faute de Euler, qu'il n'avait pas su bien calculer, alors qu'en fait Euler depuis le début avait dit que ça ne marcherait pas. Euler avait aussi montré qu'il fallait des tuyaux beaucoup plus solides, des tuyaux qui en fait auraient dépassé ce que l'on pouvait faire en pratique, c'est-à-dire au niveau des coûts et au niveau de l'installation. Là on a un problème entre ce que dit la formule et puis ce que l'on peut faire finalement en pratique. Même chose avec la balistique, un canon n'est pas un objet qui a une quantité de poudre toujours pareille, qui a une ligne parfaitement droite, qui va mener le boulet toujours au même endroit. Donc à chaque coup de canon, comme à chaque coup dans un flipper, à chaque fois qu'on envoie une balle, elle va suivre un chemin différent. Là aussi, mais il s'agit de trouver des règles générales, une espèce de modèle, un système, un idéal, mais qui finalement dans la nature n'est jamais vraiment accompli. Bon, le positiviste pur et dur dira, c'est parce que évidemment on n'a pas toutes les données du problème. Si on pouvait rentrer vraiment toutes les données à un moment donné, en un lieu précis, on arriverait à savoir avec une précision parfaite ce qui se passerait.
Mais en même temps, Euler, il avait conscience de ça, j'ai l'impression, parce qu'il analyse beaucoup la situation avant de proposer un calcul. Hein. Il dit, pour tel problème, il faut tenir compte de ça, et encore de ça, et puis encore, on n'est pas sûr parce qu'il y a le facteur humain ou il y a le facteur, je ne sais pas, hasard. Donc, ils sont conscients de ça, non, ils rêvent pas non plus, nos mathématiciens de l'époque.
Non. Disons que Euler aussi, avec l'âge, va gagner en sagesse aussi. À 20 ans, à peine 20 ans, il répond à une question de l'Académie des sciences de Paris sur la mature des bateaux, donc sur la meilleure mature des bateaux possible. Il va faire des calculs mathématiques, et puis il va écrire une certaine arrogance. Je n'ai pas pris la peine de vérifier ces calculs par la pratique, mais... ce n'est pas grave, puisque la théorie que j'ai développée est parfaite et que donc la théorie aura toujours raison sur la pratique. Par contre, au fil des années, il va forcément être plus critique par rapport à ça et souvent dire, voilà, donc bon, dans la pratique, c'est ça. Maintenant, dans la théorie, on va essayer d'approcher le plus possible, de rendre de mieux compte des phénomènes. Et donc, c'est ce qu'il va faire, mais il va garder jusqu'à la fin de sa vie une foi incroyable pouvoir de la théorie. Si ça marche pas, c'est que la théorie n'est pas encore tout à fait bonne.
Pour les monarques de son temps, le mouvement des bateaux et l'artillerie était certainement moins anecdotique que les comètes et les choses comme ça. Et donc, c'est assez intéressant de voir que le premier livre qu'il fait sur la conception des bateaux, où il a introduit des tas de conceptions théoriques, n'a pas beaucoup de succès. Il va écrire un deuxième volume où il oublie toute l'explication théorique et puis dit voilà comment il faut faire. Et à ce moment-là, les ingénieurs de l'époque, ou en fait les constructeurs explicites de bateaux, vont utiliser son livre au point qu'il va être traduit et puis qu'il va recevoir une rente du roi de France à cause de ce livre-là, je crois.
Dans ces petites choses pratiques, Pierre Alain-Chérix, vous avez réalisé quelques petites expériences qu'on peut voir au Musée d'Histoire des Sciences basées sur les problèmes d'Euler. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, on a déjà parlé des ponts de Königsberg. Effectivement, un autre problème qui, en apparence, est complètement trivial, très facile à faire, c'est de se dire, je prends un échiquier, je prends un cavalier et... je regarde le déplacement du cavalier dans le jeu d'échecs, c'est-à-dire deux coups dans une direction, un coup dans la direction perpendiculaire. Et est-ce qu'il est possible, partant d'un point de l'échiquier, de parcourir toutes les cases une et une seule fois ? Et ce problème-là est difficile parce qu'il y a énormément de possibilités. Très vite, vous vous perdez dans les essais et Euler s'est amusé à répondre à un problème qui est vraiment un problème de jeu de salon à ce niveau-là. Un autre exemple qu'on a voulu citer, c'est une question liée à de la géométrie antique. Et c'est ce qu'on appelle la droite d'Euler. Et c'est vrai que c'est étonnant quand on pense à Euclide, qui a énormément travaillé sur le triangle et les relations dans le triangle. Et Euler va découvrir une relation très naturelle entre trois points très particuliers du triangle, le centre de gravité, l'intersection des hauteurs et l'intersection des médiatrices. Et là, il voit que ces trois points sont alignés, chose qu'Euclide aurait dû voir. C'est Coxeter qui dit, on a l'impression d'entendre le fantôme d'Euclide qui dit, nom d'une pipe, j'aurais dû le savoir. Et ça, c'est possible, parce que c'est une relation très naturelle, personne d'autre ne le voit avant lui, et il a une capacité à voir des choses que d'autres n'ont pas.
Et dites-moi, on dit qu'il a inventé le sudoku, mais c'est pas vrai ça ?
Alors le sudoku est un avatar d'une invention eulérienne. En fait, pas tout à fait quand même. Depuis longtemps, depuis 2500 ans avant Jésus-Christ, les Chinois avaient inventé ce qu'on appelle les carrés magiques. Une question toute bête, vous avez un quadrillage, vous mettez des nombres sur chacune des cases du quadrillage et vous voulez que la somme des lignes, la somme des colonnes et la somme des diagonales soient les mêmes. Et les gens aimaient bien essayer de construire cela. Euler va donner des méthodes pour construire des carrés magiques. Pour cela, il va développer un autre objet qui s'appelle un carré gréco-latin, dont je ne définirai pas l'objet ici au micro, c'est peut-être un peu pénible. Et dans ce cadre-là, effectivement, on peut voir le sudoku comme une sorte de réminiscence, d'évolution un peu de ce travail. Mais non, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Ce qui est un peu frustrant, je pense, pour le grand public, c'est de se rendre compte que les seuls résultats qu'on peut éventuellement comprendre assez facilement dans les travaux de l'air sont les résultats les plus anecdotiques. Mais que les résultats profonds, eux, il est difficile de comprendre en quoi ces résultats ont une importance fondamentale. Bien sûr, dans les applications, dans les prédictions mécaniques, on les voit. Mais il y a d'autres résultats qui restent purement théoriques sur lesquels on continue à dire que l'air a amené des choses fondamentales, mais il est difficile d'expliquer. Un parallèle, c'est, j'aime bien donner l'exemple du vin. Il est des fois difficile pour quelqu'un qui n'a jamais bu de vin d'apprécier même un grand cru. Eh bien, il est difficile d'apprécier un très grand résultat mathématique si on n'a pas une légère habitude.
La beauté ou la force. La fonction f de x égale x sur 2. A pour primitive, g de x égale x au carré sur 4 avec x sur 4 avec x0 égale 1 et y0 égale g fois x0 égale 1 quart.
La beauté ou la force.
Les mathématiques, on ne remarque pas leur beauté ou leur force ou quand on ne travaille pas pendant des longues années pour se mettre dedans.
N allant de 0 à plus l'infini.